Un fleuve coule du côté du Seigneur. Un fleuve glorieux de son sang. Plein de puissance et d'amour, il fait encore des miracles. Le précieux fleuve du sang du Sauveur, lavé dans le sang. Lavé dans le fleuve rouge de sang, il purifie le cœur. Oui, il régénère complètement. Ce fleuve coule pour toi. Lave-toi dans ce fleuve. Si tu es lavé dans ce fleuve, tu entreras dans la gloire. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur, oui. Il régénère entièrement. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Dans l'obéissance, il faut se plonger dans ce fleuve pour être blanc comme la neige. Lavé dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur et régénère entièrement le fleuve rouge de sang. Ce fleuve produit une double œuvre. Il délivre du péché des fautes et purifie le cœur et régénère entièrement. Tous ceux qui ont la miséricorde de Dieu, lavés dans le fleuve rouge de sang. Il purifie le cœur, régénère entièrement, lavé. Très cordialement, nous vous souhaitons à tous les bienvenus dans le nom précieux du Seigneur. Nous voulons commencer avec le cantique numéro 1. Je veux chanter concernant mon Jésus. Concernant sa grâce et son amour. En français, oh quel bonheur de le connaître.
Ich will von meinem Jesus
le connaître.
Von seiner
L'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux. Le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Je veux chanter mon Jésus, chanter sa grâce, son amour et sa fidélité.
selig macht.
Chantez les souffrances.
Hat auch mir
sur la croix, ses souffrances sur la croix. Chantez la puissance de son expiation qui libère. Je veux louer ses prodiges. Chanter la manière avec laquelle par sa puissance il délivre le pécheur. Aussi par son expiation, il m'a apporté la lumière céleste et le salut. Le Sauveur fidèle, je veux le louer. Son armée est sans faute. Il secoue les siens et leur accorde la pleine victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Chante, mon Jésus, de mon Jésus, de sa grâce, son amour et sa fidélité. De ses souffrances amères sur la croix, de la puissance de son expiation qui libère. Amen. Ça, nous l'avons expérimenté et c'est ainsi que nous pouvons aussi chanter ces choses et rendre ce témoignage. C'est merveilleux de ce que aujourd'hui, cela est encore vrai et que les jours de la Bible ne sont pas encore passés et qu'aujourd'hui, nous pouvons de la même manière expérimenter la grâce de Dieu comme autrefois, que le Seigneur, dans sa parole, nous a dit et nous a fait savoir ce que nous pouvons expérimenter avec lui concernant les choses qui s'étaient passées autrefois et qui se passent encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Moi aussi, je voudrais vous saluer fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir être parmi vous. Nous sommes servis richement, que ce soit par l'Internet, par les cassettes, par les DVD. Mais malgré tout, quand de nouveau nous pouvons être ici, c'est pour exprimer notre relation intime avec l'Église ici. Et je voudrais, pour introduction, lire une parole dans Luc, le chapitre 4, à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mais bien-aimés, les siens en tout temps pouvaient reconnaître l'accomplissement des Écritures. Mais quelle tragédie que la parole devenue chair était parmi eux. Et si vous lisez au verset 22, et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Quelle tragédie! Et je suis reconnaissant, mes bien-aimés frères et sœurs, de ce que nous vivons dans un âge prophétique et que les Écritures devant nos yeux s'accomplissent. On pourrait lire beaucoup de choses, bien-aimés. Ça n'a pas d'importance où est-ce que nous ouvrons les Écritures. Je voudrais me résumer, mais pensons ici que ce soit Zacharie, alors que le message était venu à lui. Il ne le croyait pas, quoi qu'il avait reçu l'ordre que cet enfant conduira beaucoup des enfants d'Israël à Dieu leur, au Seigneur leur Dieu. Et c'est lui qui ira devant eux dans la puissance de l'esprit d'Élie. Mais plus tard, quand il fut rempli de cet esprit, au verset 76, alors il est dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et mes bien-aimés, ça c'est le ministère d'un prophète, pour donner à son peuple la connaissance de son salut. Et mes bien-aimés frères et sœurs, c'est exactement la même chose qui s'est passée dans notre génération. Les Écritures se sont accomplies à la lettre. Mes bien-aimés, et maintenant nous avons seulement besoin de patience jusqu'à que le reste s'accomplisse. Oh, c'est merveilleux quand on suit les Écritures, quand on peut suivre les Écritures, c'est une gloire. Pensons alors que Jean se tenait là et il disait, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser d'eau. Bien-aimé, un prophète doit aussi recevoir cela révélé, sinon il ne le sait pas. Alors il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et subitement, tous ont quitté Jean, André d'abord, Pierre, et ensuite ils ont suivi Jésus. Et qu'est-ce qui a été le témoignage? Nous avons trouvé celui duquel les prophètes ont écrit. Mais bien-aimés, quel est notre témoignage? Avons-nous trouvé celui dont les prophètes ont écrit? Si c'est ainsi, si ce n'est pas encore ainsi, que nous puissions chercher ces choses de tout notre cœur, car le Seigneur a dit, cherchez-moi et je vous, de tout votre cœur, et je me laisserai trouver par vous. Mon cœur est débordé et brûle. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Alléluia. Oui. Nous nous levons pour la prière. Nous demandons maintenant au frère Rousse encore de dire quelques paroles et de prier avec nous. Nous sommes heureux et reconnaissants pour ce jour de grâce, de ce que ce matin nous pouvons de nouveau être ici. Et je crois que nous avons déjà été bénis si nous suivons et il continuera à nous bénir si nous ouvrons nos cœurs et recevons sa parole. Et aussi lui apportons la reconnaissance pour cela. Nous voulons prier. Père céleste, fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour cette grâce que tu nous as accordée. Tu nous as agréé. Tu nous as accordé ta parole par ta grâce, Seigneur. Comment est-ce que nous ne devrions pas élever ton Saint-Nom et te louer et t'honorer? Car tu es digne que nous puissions te louer, prosterner dans la poussière. C'est ainsi que je te demande, Seigneur, bénis tous ceux qui sont venus à cette réunion et tous ceux qui ne pouvaient pas venir, mais qui peut-être écoutent, qui nous écoutent, que tu puisses bénir. Je te le demande dans ton merveilleux nom. Bénis particulièrement notre bien-aimé frère Franck, Seigneur. Accorde ta grâce. Nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Amen. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Viens du haut des cieux, viens Esprit du Seigneur. Souffle et agis. Ne reste pas loin. Souffle et agis. Ne reste pas loin. Feu divin, déverse-toi. Tu nous es cher. Ton céleste. Tu nous es cher. Ton céleste. tous ensemble. Baptise nous du haut des cieux. Pour que ta sainte flamme soit vue sur nous. Pour que ta sainte flamme soit vue sur nous. Ceci est le jour. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Nous voulons être heureux et reconnaissants. Et que la parole et l'esprit puissent agir, car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Et encore, tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur. Tu es digne, ô Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Ta vérité parcourt tous les pays.
Amen.
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 Vous pouvez vous asseoir. Nous avions des salutations à remettre de beaucoup de frères, de beaucoup de pays. Il y a eu des appels téléphoniques de ceux qui, hier soir, ont écouté. C'était une grande joie sur les différentes corrections, des différents points et d'autres points dans les Saintes Écritures. Nous demandons à Dieu sa grâce pour qu'il puisse continuer à parler avec nous et réellement à nous conduire dans toute la vérité. Ceci est le jour après que les prophètes, ceci est le jour que les prophètes ont désiré voir. Déjà comme autrefois, encore aujourd'hui, beaucoup de prophètes et de justes auraient bien voulu être présents. Ils ont prophétisé concernant la grâce qui viendrait. Ils ne l'ont plus expérimenté. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, voir l'accomplissement de cette grâce qu'ils ont annoncée à l'avance. Nous avons une présentation d'enfants et après, nos sœurs vont chanter un cantique et ensuite nous allons appeler... nous allons présenter quelques frères, particulièrement notre frère de la Côte d'Ivoire, le frère de d'Abidjan, qui là-bas, avec l'aide de Dieu, est responsable de l'œuvre et a une grande responsabilité, et aussi tous les autres frères qui sont ici aujourd'hui, le frère Inodi d'Orléans, notre frère de Paris, nous avons nos frères de tous les pays voisins. Particulièrement, nous nous réjouissons de ce que nos amis de la Finlande sont ici aujourd'hui, de la Suède sont ici, et bien sûr aussi de toute l'Afrique, de toute l'Amérique, pardon, de toute l'Europe de l'Est, de la Tchèque, de la Slovaquie et de la Suisse, de l'Hollande, de la France, de la Belgique, bien sûr aussi de d'autres parties du monde, l'Italie, et ensuite nos frères de l'Amérique du Centre et de l'Amérique du Sud. Que Dieu vous bénisse très particulièrement. Nous allons encore dans la prière penser à vous. Que le Seigneur soit avec vous. Avez-vous remarqué quelle pensée sérieuse déjà dans la parole d'introduction ont été exprimées? Les deux choses, nous voyons d'abord Zacharie qui, au moment où il avait des problèmes pour croire. Il était âgé, Élisabeth était âgée, il avait difficile de croire. Et c'est ainsi que l'ange Gabriel lui a dit, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'à que la prophétie s'accomplisse. Et ce conseil, ou bien alors cet ordre, cette instruction, ce conseil, Dieu le Seigneur le donne à tous. Si tu ne peux pas croire les promesses, si tu ne peux pas encore croire les promesses que Dieu a données pour notre époque, alors ferme la bouche et attends jusqu'à qu'elles s'accomplissent, elles se soient accomplies. Amen. Ça, c'est écrit dans la Bible. Et ça, c'est la grande leçon que nous devons tous apprendre. Quand Dieu parle, quand Dieu donne des promesses, ce n'est pas tes soucis. Comment est-ce qu'elles vont s'accomplir? Dieu, lui, il a pris la responsabilité pour tout ce qu'il a promis. Et là, nous avons tout de suite encore la différence des choses, comme aussi avec la réaction de Marie. Elle aussi, elle disait, je ne connais aucun homme. Comment est-ce que cela doit avoir lieu? Mais dans son cœur, déjà quelque chose se passait. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait tel que tu as dit. Ça, c'est ta disposition, c'est ma disposition. Aujourd'hui et pour toujours. Qu'il me soit fait, qu'il nous soit fait, tel que tu l'as promis, tel que tu l'as dit, car ta parole est vraie. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Mais sur le cœur, est-ce que nous ne pouvons pas non plus dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux, est accomplie devant nous. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur notre Dieu, qui appelle son peuple à se réunir de tous les peuples, les langues et les nations encore une fois pour la dernière fois et parle avec nous encore une fois pour la dernière fois. Et il faut que cela soit dit, cela peut être dit. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit ou a à dire aux églises. Nous sommes déjà au milieu de la prédication. Fais le travail que Dieu t'a donné. Fais-le avec amour, car le temps passe très rapidement. Qu'est-ce qui reste, dis-moi, de la vie? Rien demeure de cette terre. Tout, quoi que cela semble beau, passera. Seulement ce qui a été fait par amour pour Jésus. Cela conserve de la valeur et demeurera éternellement. Ne sacrifie pas le temps aux soucis vains. Aide ceux qui sont liés et apaise les douleurs du prochain. Vis dans la lumière. Montre le Seigneur qui te donne la louange dans le cœur. Rien ne demeure pour toujours. Des choses de ce monde, quoi que cela semble beau, un jour tout passera. Seulement ce qui a été fait par amour pour Jésus, ça demeure dans sa valeur et demeurera éternellement. Tout ton travail et tes souffrances pour Jésus, estime la valeur. Là-bas dans la gloire, de nouveau, nous retrouvons les fruits de la semence que nous avons ensemencée sur terre. Rien ici ne demeure. Rien ici ne demeure. Tout passera, quoi que cela semble beau. Seulement ce qui est fait par amour pour Jésus demeure éternellement dans sa valeur.
Nichts ist hier bleibend, alles wie schön auch wird einmal vergehen. Nur was getan ist aus Liebe zu Jesus, das behält Wert und wird ewig bestehen.
Amen.
Amen. Il y a la parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quelle certitude est dans la parole de Dieu. Par la parole, tout a existé, tout est venu à l'existence, les choses visibles et les choses invisibles. Tout a été appelé à l'existence seulement parce que Dieu a parlé. Et ce qu'il a prononcé, cela s'est accompli. Au commencement était la parole. Si on prend cela en hébreu, on trouve le mot dabar. 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 Pas seulement comme dans le grec logos. Logos peut être chaque mot, chaque parole, même qu'un politicien a prononcé, qu'une certaine personne aurait prononcé dans le mot grec logos, c'est une parole, toute parole est un logos, tout mot est une parole. Mais en hébreu, cela fait référence à la personne qui a prononcé cette parole. Et en hébreu, la signification rétablit la liaison avec la personne. Pas seulement la parole, mais faisant référence à celui qui a prononcé cette parole, qui a ordonné, qui a parlé, qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, pas seulement une parole qu'on peut entendre avec les oreilles, mais faisant mention de celui qui l'a prononcé. C'est ainsi que nous sommes déjà dans Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Nous avons ce jour, nous avons désigné ce jour en tant que jour de la Bible. Nous avons annoncé ce jour en tant que jour de la Bible par joie de ce que nous pouvions laisser imprimer cette Bible. Et ici, à la troisième page, il est écrit édition spéciale pour le centre missionnaire de Krefeld. C'est un cadeau de ce que cela est devenu possible. Je suis de tout mon cœur, reconnaissant à Dieu. J'ai, dans d'autres langues, déjà dit aux frères, nous allons énumérer les points importants et les versets importants dans des lettres circulaires et dans des brochures que nous allons traiter pour informer dans le monde entier le peuple de Dieu. En fait, nous avons aujourd'hui des salutations de nos bien-aimés frères et sœurs d'Israël. Aussi, en Israël, il y a un petit groupe et il est dit ici dans ce email, nous vous saluons d'Israël. Nous venons d'avoir l'année 5767. Nous venons de commencer l'année 5767. Nous sommes un peu plus avancés. Nous sommes déjà à l'année 2007. Ça n'a pas d'importance qui, où et comment est-ce qu'ils se sont référés au calcul du temps, référés à un point pour calculer le temps. Nous avons l'histoire du salut, à peu près, qui nous montre que d'Adam à Abraham, ça fait à peu près 2000 années, et d'Abraham à Christ, à peu près 2000 années, et maintenant nous avons de nouveau encore accompli les 2000 années, et il reste encore un jour, le dernier jour, le jour du Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce, et que la visitation de Dieu dans sa grâce, nous avons pu l'expérimenter personnellement, comme ici dans Luc chapitre 4. Autrefois, cela avait été lu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de nouveau, cela peut être lu. Ce n'était pas l'homme Paul, ou bien alors l'homme Esaïe. Ce n'était pas Jean le Baptiste. C'était la sainte onction, l'Esprit de Dieu qui se reposait sur eux. Ils ont été poussés par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que de saints hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ça, comme témoin oculaire, ici je peux le confirmer, frère Branham n'a pas eu l'enseignement, n'a pas représenté l'enseignement d'une communauté quelconque. Il n'a pas prêché ce qui avait été conçu à Nicée en 325 ou bien alors à Chalcédon en 388. Mais il a prêché la parole de Dieu en la plaçant de manière nouvelle sur le chandelier. Il s'est, en se séparant de toutes les prescriptions, les doctrines, les opinions, les enseignements humains, il a prêché la vraie parole de Dieu pour que l'Église, avant le retour de Jésus-Christ, soit édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et pour nous, la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui résonne, une parole qui résonne pour nous. La parole de Dieu est la semence de Dieu, la semence divine dans laquelle est contenu le germe de vie divin, tel que dans chaque semence naturelle, il y a un germe de vie. Et que ce germe de vie d'abord sort seulement quand la possibilité de sortir quand la semence est semée, est mise en terre, et que la pluie tombe et que le soleil brille sur la semence pour que la vie qui est cachée dans la semence sorte par la semence qui meurt et qui passe par la procédure de mort. Jésus, le grain de blé qui est tombé au sol, à terre, est mort et a produit du fruit. Et ce sont beaucoup de fils qui ont été conduits à la gloire, comme c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 2, au verset 10. Et déjà, Jean a annoncé à l'avance ce qui allait arriver à la fin. Il, comme il est écrit, il a son vent entre les mains et il nettoyera son air. Il a son vent à la main et il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Lui, le Fils de Dieu, nous les fils et les filles de Dieu. Lui, né de l'Esprit, engendré par l'Esprit, et né dans ce monde, de la même manière, nous sommes engendrés par l'Esprit et naissons de nouveau pour une espérance vivante. Ici est vraiment le mystère de notre Seigneur devenant homme. Nous avons eu souvent à le dire. Il devait venir dans la création déchue. Et mais il a, et ici est la comparaison avec Ève qui s'est laissée séduire, qui n'est pas restée dans sa position originale telle qu'elle aurait dû rester, et pour que ainsi, pour ici lier Adam à la chute, mais Marie, elle, elle est restée telle qu'elle était née dans ce monde. Elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été séduite, rien du tout. Elle est restée vierge, car elle devait être vierge, une vierge devait enfanter et faire naître un fils. C'est ainsi que cela a eu lieu tel que Dieu le Seigneur, dans tout l'Ancien Testament, l'a annoncé à l'avance. Ce qui est mieux, c'est de le lire dans Matthieu, le premier chapitre, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, et ensuite dans Luc, chapitre 1, du verset 30 au verset 31. C'est là qu'il nous a exactement dit ce qui s'est passé. Et si ensuite nous allons aux épîtres des apôtres, alors là nous ressentons comment est-ce que cela est exposé en détail. Et il nous a montré que cela a dû s'accomplir pour nous, pour que nous puissions être, pour que nous puissions recevoir la rédemption dans ce corps de péché jusqu'à la transformation, jusqu'à sa transformation, c'est-à-dire lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi notre corps, le corps a été aussi racheté, a reçu aussi la rédemption. Cela appartient à l'œuvre accomplie. D'abord, l'âme, l'esprit est délivré, l'âme est sauvée, rachetée, et lors du retour de notre Seigneur, la transformation de nos corps a donc lieu. Je voudrais lire quelques versets bibliques, car vous savez que dans le jour de la Bible, il faut que la parole de Dieu soit richement prêchée et qu'elle habite richement parmi nous, comme ça a toujours été, qu'elle soit d'une manière, d'une mesure particulière prêchée et placée sur le chandelier. Le ciel et la terre passeront. Toutes les interprétations passeront. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si la parole est en toi et est en moi, alors nous demeurons éternellement avec la parole. Seulement encore pour ceux qui veulent lire Luc, Matthieu 1, verset 21 à 23 et Luc 1, 30 à 31. Je voudrais lire pour cela le psaume 22, la parole dans le psaume 22 à partir du verset 10 et 11. Psaume 22, verset 10 et 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et il est notre Dieu parce que Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Une parole dans Néhémie que j'ai lue aujourd'hui qui montre comment est-ce que Dieu a conduit son peuple et comment est-ce que les siens l'ont invoqué, l'ont adoré et ont annoncé sa majesté et sa gloire éternelle. Néhémie chapitre 9, la deuxième partie du verset 5. Levez-vous, louez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on loue ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers, et tout ce qu'elle rend ferme. Et tout ce qu'elle rend ferme. Et tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. Bien-aimés frères et sœurs, sans vouloir se moquer d'un homme, mais soyez sincères. Quel effet peut produire la théorie d'un Darwin dans un croyant? Qu'est-ce qu'elle peut produire? Nous ne sommes même pas prêts à écouter une telle théorie, cette théorie d'un Darwin. Nous ne sommes même pas prêts à l'écouter parce que là, nous avons reçu la parole de Dieu en nous. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Ensuite, il est dit ici, au verset 12 de Néhémie 9, et ça je voudrais ici le lire en insistant parce que dans notre temps, cela s'est répété tel que c'était dans les jours de Moïse. Jérémie 9, verset 12. Tu les guidas le jour par une colonne de feu nuée et la nuit par une colonne de feu. Pour leur éclairer le chemin qu'ils avaient à suivre. Quelle parole? Loué et exalté soit le Seigneur. Il n'a pas seulement fait sortir son peuple, ensuite abandonné ce peuple à Moïse. Non, il est allé devant ce peuple, dans la colonne de feu et de nuée, pour montrer au peuple le chemin qu'il doit suivre. Moïse ne connaissait pas de lui-même le chemin. C'est seulement Dieu le Seigneur qui savait, qui connaissait le chemin dans lequel il conduirait son peuple. Mais nous savons exactement que quand le peuple arriva à la mer Rouge, Dieu a parlé à Moïse et a dit, lève ta verge sur la mer et je la diviserai. Dieu a toujours pris ses serviteurs dans son service et c'est lui-même qui était présent pour confirmer ce qu'il leur avait ordonné de faire. Moïse a fait que lever la verge, mais c'est Dieu qui a divisé la mer. C'est Dieu qui a divisé la mer. Et ensuite, c'est ainsi qu'aucun homme de Dieu, serviteur de Dieu, reçoit une certaine gloire ou bien un certain honneur. Mais tel que nous le chantons, et avec conviction, nous sommes convaincus, en le chantant, nous donnons seulement l'honneur qu'à Jésus. Dans Néhémie, le chapitre 9, toujours, nous lisons encore les versets 19. Le verset 19, Néhémie chapitre 9.
Du hast sie doch nach deiner großen Barmherzigkeit.
Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Alléluia. Pour leur éclairer le chemin qu'ils avaient à suivre. Colonne de feu, la nuit, colonne de nuit et le jour. Et le Seigneur lui-même était dans cette colonne de feu et de nuée. Et il a parlé à Moïse de face à face. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons dans les prédications de frère Branham toujours de nouveau entendu qu'il disait, pendant qu'il appelait la ligne de prière pour prier pour chacun individuellement, il disait qu'il attendait jusqu'à que cette colonne de nuée, la lumière surnaturelle, descende dans la réunion et se suspende, reste suspendue sur la personne pour laquelle il devait prier. Et c'est pour cette raison qu'à frère Branham, le 7 mai 1940, vers 23h le soir, il lui a été dit, en 1946 le soir, tel qu'à Moïse, il lui a été donné deux signes, c'est ainsi qu'il se sera donné deux signes. Et s'ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le deuxième. Et Dieu n'a pas seulement prononcé un appel et donné un envoi, un mandat. Il a accompli sa parole. Il a accompli les Écritures. Il a accompli la promesse disant, voici, je vous envoie. Je vous envoie. Le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Le frère Muller a, n'est-ce pas, mentionner Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste, qui disait, je ne le connaissais pas. Quoi que Marie et Élisabeth étaient des cousines, Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a parlé et m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Oui. Et c'est ainsi que Jean dit, j'ai vu et je rends témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu, le Sauveur d'Israël. Les vrais serviteurs de Dieu n'avaient pas seulement un message, ils avaient la confirmation surnaturelle de Dieu. C'est ainsi que c'était dans l'Ancien. Et c'est ainsi que c'était dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que c'est encore aujourd'hui. C'est ainsi que, par la grâce de Dieu, j'ai pu le voir, que Dieu a confirmé sa parole. Car le Seigneur n'est pas le « j'étais », mais il est le « je suis », toujours le même. Dans Exode 3, le serviteur de Dieu a posé la question, « Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qui m'a envoyé ?» On me posera la question, « Qui m'a envoyé ?» Et le Seigneur lui a dit à Moïse, « Dis-leur, le « je suis » t'a envoyé. Le « je suis » t'a envoyé. Il est le grand « je suis » encore aujourd'hui. Donc, celui qui aujourd'hui trouve la grâce de Dieu devant, la grâce devant Dieu, alors c'est quelqu'un qui croit les promesses, qu'il voit les promesses s'accomplir. Pour tous les autres, elle ne signifie rien. Le message divin ne signifie rien. Et ils restent, ce sont des gens qui restent dans leur tradition et dans leur prescription, ils pensent servir le Seigneur. Mais il est écrit, et ça c'est l'expression de notre Seigneur, je bâtirai mon église. Pas 375 églises et églises libres. Mais le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et c'est là que nous venons déjà à Jean 17. Père, toi en moi et moi en eux, pour que nous soyons tous un. Pas pour qu'ils soient un. Pas unis sous Rome, mais unis sous Jésus-Christ, la tête, le chef de l'Église. Et là, c'est là que la séparation a lieu parmi le peuple. Toutes les religions, tous, et encore une fois, tous s'unissent sous Rome, car c'est le dernier empire mondial, tel que dans le prophète Daniel, au chapitre 2 et au chapitre 7, cela est décrit. Mais l'Église de Jésus-Christ n'est pas une constitution religieuse, une union religieuse, mais elle est le corps du Seigneur, la troupe rachetée par le sang. C'est peut-être donc que notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, vous n'êtes pas de ce monde, tel que je ne suis pas de ce monde. Ils m'ont rejeté, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et ensuite, la parole merveilleuse suit. S'ils ont cru ma parole, ils croiront aussi votre parole. La foi est un don de Dieu. Et au moment où la parole nous est révélée, c'est à ce moment-là que la foi devient la puissance de Dieu pour nous tous par la grâce de Dieu. Dans le psaume 33, nous avons les expressions merveilleuses sur la parole du Seigneur, le jour de la Bible. La Bible est la parole sainte de Dieu. Psaume 33, à partir du verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. C'est ainsi que c'est. Il aime la justice, verset 5. Et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Oui, il a dit. Au verset 9, il a dit, et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Et au verset 7, il a dit, il annonçait en un tas les eaux de la mer. Ils mettent dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oh, quel témoignage! Les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Nous ont transmis ce qui est devenu était important pour eux et ce qui leur a été révélé par le Saint-Esprit. Maintenant arrive quelque chose de très particulier au verset 10 et 12 et 13. Comme comparaison. Psaume 33, versets 10, 11 et 12. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Bon, finish. Ensuite arrive, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Il a renversé les desseins des nations. Il a anéanti les projets des peuples. Mais il dit, mon dessein subsiste à toujours. Mon dessein demeure éternellement. Et si Paul écrit là-dessus et dit, je vous ai prêché tout le dessein de Dieu, tout le conseil du salut de Dieu. Qu'est-ce que nous devons dire dans ce temps alors? Après l'ouverture des sceaux, après l'introduction dans les mystères de Dieu, des choses qui sont restées cachées depuis la fondation du monde, Dieu les a révélées dans nos jours. Il est descendu dans la colonne de feu. Et que je puisse dire cela, je vous demande de la crainte devant Dieu le Seigneur. Alors que Frère Branham rendait témoignage de cet événement, que ce jour du 17 jusqu'au 24 mars 1963, vers 14h l'après-midi, la colonne de feu descendait dans sa chambre et que le Seigneur directement d'une manière surnaturelle a révélé le sceau sur lequel il devait parler le même soir. C'était le Seigneur qui dans le nuage surnaturel a apparu, n'est-ce pas, et a donné l'ordre à Frère Branham, repars à Jasonville. Et c'est ainsi que l'ordre lui a été donné, car les sept sceaux doivent être ouverts et seront ouverts. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'était pas le plan d'un homme. C'était dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu. Dans le prophète Daniel, dans le chapitre 12, au verset 4, il est écrit, scelle le livre. Daniel 12, jusqu'au verset 4. Jusqu'à la fin, pas pour toujours, mais jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que, dans la fin, ce livre doit être révélé. Alors quand nous regardons dans l'ouverture des sceaux, les quatre premiers sceaux sont en parallèle avec le temps des âges des églises, dans les sept âges par lesquels elle avait à passer. Car c'était déjà comme ça, symbolisé dans l'Ancien Testament, dans Jacques, dans Zacharie 4, annoncé à l'avance par ce chandelier avec cette branche. C'est ainsi que Jean sur l'île de Patmos, dans Apocalypse 1, a vu cela. Il vit le chandelier avec cette branche et il a vu le Fils de l'homme dans son état de gloire marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Et il avait les sept étoiles, qui sont sept anges de l'Église, dans sa main droite. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans la main d'un homme. Ne sont pas serviteurs d'une Église ou bien d'une Église libre. Des vrais serviteurs de Dieu sont dans la main du Seigneur. Et c'est à eux que la parole de Dieu est révélée et il la porte à l'Église. C'est ainsi que cela est écrit dans Apocalypse, le premier chapitre, tout de suite dans les premiers versets. C'est-à-dire, Apocalypse, premier chapitre, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Nous avons eu déjà à le dire ici, bien mes frères et sœurs. Nous avons ici réellement le mot grec apocalypsis. Et cela signifie dans notre langue dévoiler, découvrir. Si nous couvrons quelque chose et que nous ne savons pas ce qui se cache derrière, personne ne l'a vu, personne ne l'a su. Ensuite, on dévoile, on découvre, on dévoile le dévoilement de la personne, le dévoilement de Jésus-Christ. Le rideau a été ôté. Nous le voyons en tant que celui qu'il, tel qu'il était, qu'il est et qu'il revient. En tant que le Dieu Tout-Puissant qui, de manière différente, pour notre salut et pour l'accomplissement de son conseil du salut, s'est révélé. Que ce soit que les Saintes Écritures le décrivent en tant que fils de Dieu, ou alors en tant que fils d'Abraham, ou bien fils de David, ou bien fils de l'homme, que ce soit qu'il soit décrit en tant qu'agneau de Dieu, ou bien médiateur, ou avocat, ça n'a pas d'importance. Partout, il y a dans ces différentes révélations, il y a une relation au dessein du salut de notre Dieu. Il y a une relation à l'Église. Il y a une révélation qui, en tout, est liée au dessein du salut de notre Dieu. Bon, dévoilement, révélation de Jésus-Christ. Jamais dans ces 2000 années, la révélation de Jésus-Christ dans cette a été apportée dans cette clarté. Et frère Branham était bien le seul qui, dans notre temps, pouvait dire: j'ai vu plusieurs fois l'ange de l'Éternel, mais Jésus-Christ, mon Seigneur, je l'ai vu qu'une seule fois dans un champ de blé se tenir. Notre frère était un homme de Dieu qui avait reçu la grâce de Dieu, qui pouvait s'approcher du Seigneur. Dieu choisi, et ici est un point très important. Nous pourrions poser la question: est-ce que le Saint Dieu peut parler à un homme qui est de chair et de sang? Est-ce que cela est possible? Oui. Qui étaient les prophètes? Je vous pose la question même: qui était David? Pour que le Seigneur, toujours de nouveau, ait parlé avec lui, lui ait montré des visions, et était avec lui, et lui a donné la promesse: jamais il te manquera une descendance sur... car il s'assera sur ton trône, sur le trône. Ensuite, la promesse de Jésus-Christ, le fils de David, suit. Dieu n'a pas pu s'arrêter aux hommes. Il a sanctifié les hommes par sa présence. Il a mis sa parole dans les prophètes pour qu'ils puissent nous l'apporter. Il ne s'est pas arrêté au fait qu'il soit seulement que des hommes. Non, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il voulait faire. Ainsi, notre Seigneur Jésus était, en lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. En lui, la parole elle-même est devenue chair, est devenue une réalité. Revenons à Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Maintenant arrive la raison. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. À son serviteur Jean. C'est dit que c'était autrefois sur l'île de Patmos. Et Dieu a le droit de faire ce qu'il s'est proposé de faire dans son conseil du salut, dans son dessein du salut. Car si frère Branham parle, quand frère Branham parle de l'ange de l'Éternel qui vient à lui et qui lui a donné des ordres, qu'est-ce qui quel a été le cas avec Jean sur l'île de Patmos? Il est dit ici que c'est par l'envoi de son ange qu'il a fait connaître ces choses à son serviteur Jean. C'est-à-dire, tout ce qui devait être montré à ses serviteurs, au pluriel. Ici est la chose importante que nous devons dire. Ce que Dieu donne à l'un de ses serviteurs, comme révélation, la révélation que Dieu donne à un de ses serviteurs, elle est, c'est pour que cela soit montré à tous ses serviteurs et que la parole révélée et le témoignage de Jésus-Christ soit porté par tous et transmis au peuple de Dieu. La condition, c'est que le même Esprit de Dieu qui se repose sur ce serviteur, vienne aussi sur nous et que l'action surnaturelle de Dieu se manifeste aussi par nous. Maintenant, au verset 2, il est dit, celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui aller par chaque ville, par chaque pays. La révélation, donc l'Apocalypse est pour tous encore un livre scellé, est resté pour tous un livre scellé de sept sceaux. Quand ils ouvrent le livre de l'Apocalypse, ils peuvent chacun donner leur interprétation. Mais frère Branham n'avait pas d'interprétation. Il avait la révélation, l'introduction dans ce qui est écrit dans tous les 22 chapitres de l'Apocalypse. Je le dis très sincèrement, pour moi, c'est un très grand privilège, alors que frère Branham, en décembre 1962, me disait que, à cause d'une vision, en janvier 63, il doit donc déménager à Tucson, Arizona, car il avait reçu une vision du Seigneur. Je l'ai déjà dit ici, ou bien peut-être deux fois. Il avait vu en vision que quand l'État, donc la commune, allait élargir la rue sur laquelle il habite, et que sa palissade allait être placée sur la rue, couchée comme ça sur la rue. Alors ce sera le temps où il doit aller en Arizona, car l'ouverture des sceaux allait être proche. Moi, frère Franck, j'ai vu en décembre 1962 les bulldozers passer sur la Rolling Well, c'est comme ça que s'appelle cette rue où habitait frère Branham. J'ai vu de mes propres yeux les bulldozers. Tel que frère Branham l'a vu en vision. Bien mes frères et sœurs, je ne suis pas comme ça quelque part. J'ai pas comme ça sauté dans une chose comme ça quelque part dans le temps. Mais j'ai connu frère Branham pendant 10 ans. Ensemble avec lui, nous avons été en relation. J'ai connu son ministère en Europe et aux États-Unis. Et je suis témoin oculaire de ce que Dieu dans notre temps a fait. Et ensuite, le moment vint où le Seigneur aussi m'a révélé ce qui est lié à ce ministère. Et je vous dis que cela nous a fait aller de clarté en clarté et de révélation en révélation. Et aujourd'hui, nous avons réellement une vue d'ensemble extraordinaire et une introduction extraordinaire dans tout le dessein du salut de notre Dieu et aussi dans la parole prophétique. Peut-être que cela s'ajuste ici. Vous savez, n'est-ce pas, que j'étais en septembre en Philippines et j'étais en Indonésie. J'étais dans les pays de de l'Asie Sud-Est. Et jeudi le 13 septembre, j'ai pu de Sumatra vivre les coups du tremblement de terre. J'étais à Medan et dans la région de Sumatra, à peu près 600 kilomètres du centre Épine. Et voilà que le frère me dit, avec qui j'étais, « Frère Franck, regarde le plafond. » Nous n'étions même pas en train de remarquer que nous étions en train d'être balancés. Nous avons regardé le plafond. C'était vraiment un lustre énorme qui donne plein de lumière. Et voilà que nous voyons le lustre de manière majestueuse se balancer. Pas comme ça quelques secondes, il continuait comme ça à se balancer. Il avait reçu un coup et il se balançait devant nos yeux. Et je pensais aux paroles de mon Seigneur. Qui avait parlé de la fin des temps et aussi des tremblements, qui avait parlé de la fin des temps et des tremblements de terre. Et il a dit, quand vous verrez ces choses. Et maintenant, je suis là, dans le hall de l'hôtel. Malheureusement, cet hôtel s'appelle Tiara, mais ça ne fait rien. De toute façon, j'ai pu vivre en direct ce tremblement de terre. J'ai reçu cela vraiment dans le cœur. Quelle grâce de ce que nous pouvons vivre maintenant et que maintenant nous pouvons voir de nos yeux tout ce qui a été annoncé à l'avance, tout ce qui allait s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les derniers moments, les derniers âmes de temps. Et nous pouvons voir tous ces événements et les vivre. Bien, frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients entièrement de la grâce que nous avons reçue de Dieu, le message de l'heure, la parole de la promesse, l'accomplissement des prophéties bibliques par la grâce de Dieu, de voir toutes ces choses. Est-ce que vous savez quel privilège Dieu, par sa grâce, nous a accordé de ce que nous ne sommes pas assis comme ça quelque part de quelconque pour écouter des histoires qui peut-être ici et là sont racontés dans les prédications, mais que nous avons la grâce d'écouter la vraie et véritable parole de Dieu et de donner les choses à leur place. Ça, c'est notre devoir. C'est le devoir que notre Seigneur nous a accordé et nous acceptons la responsabilité devant Dieu, devant son peuple. Que par le ministère des apôtres et des prophètes, de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans tout le résumé que nous avons reçu par le ministère de Frère Branham, de toutes ces choses, la parole révélée et confiée, nous devons la transmettre au peuple de Dieu, claire comme un cristal, la prêcher claire. Et notre devoir, n'est-ce pas, c'est de laisser tout dans sa forme originale, chaque parole de Dieu et chaque citation du frère Branham. Telles que les interprétations des Écritures ont égaré, c'est ainsi que les interprétations particulières des citations du frère Branham égarent. Et c'est cela justement qu'il y a de nouvelles divisions. Et c'est toujours l'adversaire qui a, par les interprétations, placé un piège pour saisir les hommes. Mais à cet endroit, ces pièges-là de l'adversaire sont dévoilés et montrés et ouverts. Et il est montré où est-ce que des hommes attirent des disciples après leur personne et ont des disciples, des gens qui les suivent. Chaque interprétation étrangère, toute interprétation, tout enseignement étranger apporte des divisions et tout frère qui les représente attire des disciples, des frères et des sœurs à sa suite pour qu'ils soient soutenus N'est-ce pas? Et c'est ainsi que cela arrive que dans les villes, il y a différents représentants de différents enseignements qui font leur soi-disant œuvre. Non. Le temps de Dieu est là. Le jour de Dieu est là. Le jour de la Bible est là. Pour que nous puissions prendre notre orientation seulement par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que cela reste pour toute éternité. La parole de Dieu nous a été confiée et tel que Jésus-Christ était la sainte parole pure et la semence divine qui fut promise depuis le jardin d'Éden et 213 fois dans la Bible il est parlé de la semence, 313 fois il est parlé de la semence et de la descendance, et nous sommes la semence de Dieu. La semence promise d'Abraham, c'était Christ. Et c'est en Christ que toutes les nations de la terre devaient être bénies. Et ensuite, nous avons toutes les promesses et toutes les écritures dans la parole de Dieu. Nous pouvons avec droit prétendre que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole de Dieu révélée, la parole prophétique est devenue une lampe sur notre sentier et nous voyons bien sûr toute la parole. Et bien sûr, toute la parole est une lumière sur notre sentier. Mais Pierre dit particulièrement, faisons mention de la parole prophétique, qu'elle ne permet pas une interprétation particulière. Et mais malgré tout, il a interprété, il est encore une fois interprété. Que je puisse dire encore aujourd'hui. Celui à qui la parole de Dieu et la volonté de Dieu est révélée, il n'interprète plus. Il croit comme l'a dit les Écritures. Et celui qui interprète encore, ça veut dire que la parole ne lui a pas encore été révélée. Donc, que aujourd'hui, en cet endroit, cela ait lieu, que ce soit vraiment un jour de la Bible, un jour que le Seigneur a fait pour toi et pour moi, pour nous tous, un jour qui nous réjouit. Parce que nous avons compris, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait en nous. Tous nous avons été appelés à sortir d'ici et là. Nous sommes sortis d'ici et là. Qui t'a appelé, qui m'a appelé, qui nous a appelés. Et au moment où nous suivions le Seigneur, et que l'opprobre est venu sur nous, c'est à ce moment-là que le probe est venu sur nous. Nous n'avons plus été compris des autres. Les églises dans lesquelles nous étions ne nous comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore restés dans ces endroits-là où nous étions auparavant. Mais quand Dieu fait quelque chose de nouveau sur la terre, alors il ne le fait pas avec les vieux systèmes, non. Mais Dieu dit, voici, je fais quelque chose de nouveau. Je fais tout nouveau. Aussi dans nos jours, Dieu a fait un nouveau commencement par sa grâce. Pour de nouveau rétablir toutes choses dans l'état primitif. Et pour conduire tous dans la foi, ramener tous à la foi des apôtres et des prophètes. Et à cela appartient aussi le baptême biblique d'eau. Hier, déjà, nous avons eu à le mentionner. Et il faut que cela soit dit encore aujourd'hui. Tous baptisent réellement dans les titres, dans une forme, dans la forme. Et cela est dommage si, par exemple, dignitaire spirituel dans une église catholique ou bien anglicane ou bien baptiste ou bien orthodoxe, les premières paroles qui sont dites sont faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toujours cette formule. Et cette formule n'est pas écrite une unique fois dans la Bible. Et avant l'année 325 à Nicée, cette formule n'a pas été connue. Tous savaient ce qui était écrit. Tout ce que vous faites en parole et en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, Colossiens 3. Tous savaient qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel dans lequel ils sont sauvés. Ils peuvent être sauvés. En dehors du nom de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il est écrit dans le prophète Joël? Celui qui invoque le nom du Seigneur, le nom, avant de pouvoir invoquer le nom ou bien adorer le nom du Seigneur, je dois savoir comment est-ce qu'il s'appelle. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Tous ces gens, aussi dans tous ces endroits de pèlerinage dans les forêts, peuvent réciter un Ave Maria l'un après l'autre. Et à quoi est-ce que ça sert? Ils ont prié en vain, cela fait mal. C'est de l'égarement. Et l'humanité ne le sait pas. Il faut que une vraie parole claire de Dieu soit prononcée. Et que nous puissions dire, revenez au Seigneur, revenez à sa parole. Revenez au modèle des Saintes Écritures. Revenez à ce que les apôtres et les prophètes ont fait et ont enseigné. Donc, il s'agit de revenir à la parole de Dieu. Ensuite, celui qui lit les Écritures avec attention, ou alors il se retrouvera dans ce qu'il lit, bien alors il ne se retrouvera pas avec de l'imagination et de la prétention, de l'orgueil. On ne devrait pas se satisfaire. Nous ne portons pas un jugement, mais soyez sincères. Chaque communauté est convaincue d'elle, qu'elle croit de manière correcte et qu'elle enseigne de manière juste. Et il n'y a pas un seul verset biblique. Il n'y a qu'une seule Bible. Et cette Bible-là est interprétée de toutes sortes de manières. Et tous ont, n'est-ce pas, établi leur doctrine, leur enseignement. Ils ont leur confession commune et leurs enseignements communs. Mais où reste Dieu? Où est le respect devant la Sainte Écriture? Où est le modèle du temps des apôtres? Notre Seigneur dit encore aujourd'hui, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Pensez encore à la parole d'Ésaïe 40. Alors que le ministère de Jean-Baptiste avait été annoncé, du verset 3, et ensuite, le verset 10 suit, où il est dit, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 18 jusqu'au verset 25, a prêché la parole, et il finit avec la prédication en disant, ceci est la parole que nous avons prêchée. Donc, l'Évangile est la parole qui demeure éternellement. L'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament est à retrouver dans les Saintes Écritures. Est-ce que tu te retrouves de nouveau dans les Saintes Écritures, ordonné dans le modèle biblique? Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Est-ce que cela t'a été révélé? Ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, le chapitre 17, ici il est écrit de la parole de notre Seigneur. Cela est à lire, Jean 17, verset
3.
Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Verset 2. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La vie éternelle ne vient pas par une action religieuse, une pratique religieuse. C'est un don de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut parler de vie éternelle, mais on peut aussi la recevoir. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Encore une fois, que cela soit dit ici, l'obéissance appartient à la foi et la foi appartient à l'obéissance. Est-ce que Jacques, que cela soit les derniers versets que nous lisons, est-ce que Jacques, de manière si très claire dans son deuxième chapitre, n'a-t-il pas parlé de ça? Que la foi seulement ne suffit pas. Elle suffit pour accepter Jésus-Christ. Et ensuite, il faut que à la foi, les œuvres suivent. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Maintenant le verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est seulement ainsi que s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, crut Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Que nos frères et sœurs, que Dieu Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Je sais que ce jour est un jour que le Seigneur a fait aussi. Je sais, encore plus que ça, je sais que vous avez tous compris de la bonne manière que la parole de Dieu dans votre cœur vous a été révélée. Vous avez compris que nous faisons que transmettre ce que Dieu a déjà accordé. Et vous avez une part entière à cela, et vous croyez comme le dit les Écritures. Et c'est cette raison que vos oreilles et vos yeux et vos cœurs sont bienheureux. Oh, bienheureux es-tu, toi qui as cru. Oh, bienheureux, parce que tu peux croire. Et comme Marie a reçu la semence divine, c'est ainsi que, en tant que vierge sage, nous avons reçu la semence incorruptible, la semence divine de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient sur nous. Et la puissance du Très-Haut nous couvre. Et la semence sort, c'est-à-dire le germe de vie qui est dans la parole sort. Et ensuite, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Que tous ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement aujourd'hui saisissent cette occasion et après cette réunion se laisser baptiser. Nous avons une occasion inouïe, maintenant, sous un soleil qui brille, dans de l'eau chaude, de baptiser dehors. C'est aussi un cadeau de notre Dieu pour lequel nous sommes reconnaissants. Êtes-vous tous reconnaissants pour la parole de Dieu, pour la révélation par le Saint-Esprit? Alors nous voulons nous lever et ensemble remercier le Seigneur. Je demande à Frère Rousse qu'il puisse encore venir et prier avec nous tous. Combien veulent être inclus dans la prière? Avons-nous? Regarde, bien-aimé frère. Regarde, bien-aimé frère. Oui. Prononce la parole de la prie la parole de la foi de la prière. Oh, nous te remercions pour ta parole encore ce matin, Seigneur. Car par ton Saint-Esprit et par ta parole, tu nous as parlé. Et les frères et sœurs sont prêts à te servir de tout leur cœur. Accorde ta grâce, nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Quoi qu'ils demandent, que tu puisses répondre par ta grâce. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Que Dieu nous bénisse. Qu'il soit avec nous tous. Maintenant encore la question. Qui veut se laisser baptiser? Avons-nous des frères et des sœurs qui veulent se laisser baptiser? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors nous allons faire cela ainsi. Bon, asseyez-vous rapidement. Ensuite, tous ceux qui veulent se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont consacré leur vie à Dieu, pourront se laisser baptiser. Maintenant, je voudrais permettre à tous nos frères qui, pendant ce week-end, nous ont visités, donner l'occasion pour que vous puissiez tous les voir, pour que nous puissions prier pour eux et que Dieu puisse les bénir. Encore deux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui pour la première fois? Pouvons-nous voir vos mains? Avons-nous quelqu'un qui est ici pour la première fois? Que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Ensuite, la deuxième question liée avec une demande. Nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient. Il y a les deux paroles qui disent le jour et l'heure. Vous, personne ne connaît le jour et l'heure, c'est ainsi que c'est écrit. Et ensuite, il y a aussi la parole qui dit quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors vous savez que cela est proche. Oui, que c'est devant la porte. Les deux sont justes. Personne ne connaît le jour et l'heure, mais nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. Les signes des temps, l'accomplissement des prophéties bibliques sont un langage à haute voix et clair. Mais je voudrais inviter fraternellement, chaleureusement, à un voyage en Israël. Seulement si le Seigneur n'est pas encore revenu jusqu'à cette date. Alors que personne est lié à sa promesse. Si le Seigneur, entre-temps, devait revenir. Mais disons, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous voulons entreprendre un voyage en Israël du 5 au 15 mai. Et en Israël, aussi prendre part le 15 mai, au 60e anniversaire du fondement de l'État d'Israël. Ce serait bien si aujourd'hui déjà beaucoup pouvaient s'enregistrer ou alors dans les prochaines semaines. Que la volonté du Seigneur, notre Dieu, ait lieu, soit faite en tout. Mais vous savez, nous aimons Israël de tout notre cœur, de tout notre cœur. Et nous contribuons donc au bien du pays, car le tourisme est la source de vie, la troisième source de vie, je pense, d'Israël. Et les voyages en Israël ne sont pas seulement des vacances, mais chaque pas et mouvement est biblique que nous entreprenons là-bas. Et tous ceux qui, jusqu'à maintenant, étaient du nombre du voyage ont été bénis. Si vous pouvez vous le permettre, si vous, vous pouvez vous l'offrir, commencez déjà à économiser, que la femme dise au mari, s'il te plaît, ne dépense pas. La femme peut ensuite, ou bien la, le mari peut dire à la femme, fais attention, toi aussi économise aussi un peu. Et si les deux économisent, alors le prix est déjà là. De toute manière, ceux qui sont célibataires, ils ont mieux, car ils, ils économisent nuit et jour. Mais la question est pour qui? Pour qui? Alors, vaut mieux se payer, un, faire un voyage en Israël. Alors, ça, déjà, par cela, vous, vous aurez quelque chose de votre économie.
Erratend auf euch walten, euch bei seiner Herd erhalten, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, einst vor Gottes Thron. Wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.